un député du parti dit le PS ne travaille pas assez sur les classes populaires. Comment vous voulez avoir la légitimité ensuite sur le terrain de défendre les classes populaires justement?
Bah justement, donc du coup, il faut reprendre le travail. Donc, c'était aussi une démission qui a créé un électrochoc. Et aujourd'hui, je ne me sens pas du tout minoritaire. C'est la question pourquoi je reste. J'ai reçu mais des centaines de messages, plus de 500 messages de toute la France, de militants qui m'ont dit « Philippe, continue à te battre, on a besoin de toi.
» Mais ce n'est pas les militants le problème. Bon, le problème, voilà. C'est les « fâchés pas fachos », entre guillemets.
Voilà.
Donc, comment vous allez les chercher, ceux-là, du coup?
Bah, moi, je vais les chercher dans ma circonscription. On a fait un truc exceptionnel. On a gagné cette circonscription qu'on n'aurait jamais dû gagner, qui a voté largement Le Pen. On a réussi à la gagner avec un discours très différent de celui qu'on entend nationalement à gauche. On l'a fait en étant sur les ronds-points. On a fait des barnums sur les ronds-points. On a porté les sujets sociaux, les sujets de protection, de services publics en numéro un. Bon, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut aujourd'hui faire évoluer. Maintenant, très clairement, là, cette mission qui m'était confiée, je ne pouvais plus la continuer. Mais ça ne veut pas dire que le travail il est terminé. Et ça ne veut pas dire que le PS est mort. Je pense que justement, on va devoir continuer à porter ça après les élections européennes.
Justement, c'est fou parce que cette petite question entre Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et les classes populaires, c'est une question qui ne date pas d'hier. Moi, quand je pars en 2018, c'est au moment où il nous vend le renouveau socialiste dans les têtes comme dans les idées. On a vu ce que ça a donné. Qui là va s'occuper de la place des classes populaires maintenant au parti?
Il y a une autre personne qui faisait ça avec moi, qui est conseillère régionale, donc elle va la présenter, là, elle va s'en occuper.
Ouais. Et qu'est-ce qui te répond, le premier secrétaire
Vous avez, c'est dans la presse, parce que tout ça est dans la presse. Vous avez un article du Monde qui est extraordinaire, moi je vous invite à le lire, extraordinaire, dans lequel ils écrivent, en fait, vous savez, la politique, ça fonctionne comme ça, il faut d'abord être assistant. C'est la profession réglementée, en fait. C'est une profession réglementée qui parle une langue étrangère. Donc, il faut être près du pouvoir. Donc, il faut d'abord être assistant, il faut grenouiller. Et puis ensuite, on vous donne une circonscription. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, ils sont favorables à ça. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils m'avaient dit quand ils m'ont confié cette mission. Donc là, on a finalement une opposition entre deux visions de la politique. Je veux dire, une vision plus citoyenne, populaire, celle que je défends et que plein de gens défendent au Parti Socialiste. Et puis, une vision très bureaucratique, très apparatchique. Des gens qui pensent que c'est un métier, la politique. Que finalement... Tu deviens député, tu as été assistant, tu deviens député, tu prends même toi-même des assistants, une sorte de reproduction éternelle de l'assistant parlementaire ou du collaborateur d'élu. Bah ça tue la politique. Voilà, la politique, ça ne doit pas être un métier. Parce qu'après, quand vous retrouvez à faire de la politique et que c'est votre métier, bah, vous ne pouvez pas prendre de position courageuse. Vous vous retrouvez face à Hollande et Valls. Bah, vous ne votez pas la censure au moment où ils font le 49-3 sur la loi El Khomri. Vous ne le faites pas parce que vous avez peur de perdre votre mandat, parce que vous n'avez pas de métier à côté. Donc moi, je pense que c'est très important, cette question de la professionnalisation de la politique, parce qu'une partie des trahisons reprochées au PS, elles viennent de cette trop forte professionnalisation.
Et votre école, pourtant, elle cherche à professionnaliser des gens dont ce n'est pas le métier pour qu'ils en fassent
non,
leur métier?
Non, ce n'est pas la professionnalisation, au contraire. C'est juste de leur donner les clés pour ne pas qu'ils se fassent broyer. Voilà, c'est tout. Donc, à la fois des outils de défense intellectuelle, parce qu'on peut avoir une vraie envie de changer le monde, mais c'est bien d'avoir lu ses classiques, d'avoir lu Bourdieu, d'avoir donc des outils de défense intellectuelle. Voilà, quand on vous raconte n'importe quoi, d'avoir des bons réflexes. Ensuite, des savoirs techniques pour ne pas se faire avoir non plus par le premier technocrate qui vient vous dire que ce n'est pas possible. Donc, du droit, de l'économie, des finances publiques et puis des savoir-faire politiques. Parce qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi le mouvement des jeunes il s'est écrasé à un moment? Parce qu'il y a un problème de savoir-faire, monter une coordination, comment on fait pour voter entre nous, ça s'est mal passé. Donc là, il faut un savoir-faire politique. Comment on fait une pétition, comment on monte une mobilisation, comment on monte une manif, comment on monte une coordination, comment on se présente à une élection. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, la profession réglementée, quand vous n'avez pas un euro en caisse, comment vous faites pour vous présenter à une élection? Ça coûte cher une campagne. Bref, donc on apprend tout ça à l'école d'engagement. Ce n'est pas du tout la professionnalisation, c'est juste de donner des clés pour ne pas se faire broyer par le système.
Pour pas qu'il y ait finalement que au RN qu'il y ait des écoles, quoi.
Aussi. Voilà.
Bon, le chat.
Alors oui, justement, j'allais dire, allez, Jules, est-ce que t'avais pas une question sur les européennes et sur la tête de liste?
Le chat, il dit, bon, alors oui, Glucksmann, on en pense quoi? Comment ça se passe? Parce que voilà, la campagne là qu'il est en train de faire, elle est pas tellement sur la défense des services publics européens, je sais pas quoi. On est parti sur complètement autre chose, les trucs de Glucksmann. Voilà. On en pense quoi? Est-ce que ça se passe bien?
Écoutez, oui, la campagne n'a pas vraiment commencé. Donc, en tout cas, le programme qui est suivi du Parti Socialiste, c'est un programme dans lequel je me retrouve tout à fait. Celui qu'on a adopté pour la Convention Europe, dans lequel on a fait des amendements très intéressants sur le protectionnisme européen, sur la défense du service public. Raphaël Glucksmann a eu des positions différentes des nôtres il y a de nombreuses années. Il a écrit un livre pour s'en expliquer. Et aujourd'hui, quand il parle, je me sens pas en désaccord fondamental avec ce qu'il dit. Maintenant, on va voir quelle sera la tonalité de la campagne. Je crois que le sujet, il est social. Hein. Ceux qui pensent qu'on va faire une campagne seulement sur la géopolitique ont tort.
Les Insoumis insistent sur le fait que l'ouverture à l'Ukraine de l'Union européenne, c'est encore un nouvel élargissement du marché commun, encore une nouvelle mise en concurrence des travailleurs les uns avec les autres. Et puis, puisqu'on parlait de Louviers, moi, mon père, il était à l'usine à Andé.
De carbone.
Et de carbone était racheté par General Motors, qui a délocalisé tout ça, alors en Roumanie, en Bulgarie, je sais pas quoi. Donc moi, les délocalisations, c'est très concret. On était sous Jospin à ce moment-là, et donc c'était les socialistes. On a demandé François Long, faites quelque chose, etc. Rien n'a été fait. L'État, il ne faut pas attendre tout de l'État. C'était ce moment-là sous Jospin. L'élargissement à l'Ukraine, on continue d'élargir. Est-ce que peut-être que le PS pourrait aussi faire un bilan de ces élargissements, de cette construction européenne qu'il continue de défendre fermement, et en plus maintenant avec un côté un petit peu belliciste.
Donc moi, ma position personnelle, c'est que moi, je suis favorable à l'adhésion de l'Ukraine, mais pas à l'ouverture du marché. Il faut trouver une solution pour avoir une solidarité continentale, pour dire au peuple ukrainien, nous vous aidons, nous sommes à vos côtés pour résister à l'impérialisme russe, mais on ne va pas ouvrir le marché, je suis défavorable. Voilà, je crois encore une fois que le libre-échangisme a tué la gauche et la promesse de gauche dans ce pays, parce que vous ne pouvez pas faire... On parlera peut-être de l'agriculture tout à l'heure, mais on ne peut pas faire à la fois, si vous voulez, ouvrir grand les frontières et de l'autre côté, mettre en place des régulations sociales, environnementales pour protéger les gens. Donc on est obligé, de toute façon, de protéger notre modèle social, notre modèle environnemental. Et donc là, l'ouverture à des pays, la Moldavie, l'Ukraine, dans lequel le SMIC est à 90 euros, ce n'est pas acceptable.
Donc en fait... La campagne des Européennes, c'est
elle n'est pas dead.
Du coup, là, vous n'êtes pas d'accord avec Glucksmann.
Est-ce qu'on est déjà en train de se préoccuper de la présidentielle?
Non, mais écoutez, d'abord, mais la campagne européenne. Revenons, dézoomons un petit peu sur la campagne européenne. Déjà, dire que le problème de cette campagne, là, les qualités des uns et des autres, des têtes de liste, etc., c'est qu'on commente une bataille de nains. C'est une bataille de nains. On est tous en moins de 10% ou autour de 10%. Mmh. Et que d'abord, il fallait faire l'union à cette élection européenne.
Ah oui, vous étiez pour l'union de la gauche.
Moi, vous étiez membre du bureau national, j'étais le seul à avoir dit, il faut faire la liste commune, élection européenne. Surtout qu'en plus, c'était intéressant, parce que c'était pas une liste LFI, parce qu'ils disaient, on vous laisse la tête de liste. C'était génial.
Aux écolos, ouais.
Oui.
Ils voulaient laisser aux
écolos. Oui, c'est ça, aux écolos. Voilà, on laisse à quelqu'un d'autre la tête de liste. Donc c'était intéressant de montrer un autre visage de l'union de la gauche. Et moi, je pense qu'il fallait jouer le match avec Bardella. Parce que là, on a décidé collectivement de dire, le 9 juin, il fera 30%, ça y est, il est gagnant, en fait. L'affiche, il est gagnant de fait, en fait. On a décidé de le faire. Donc, c'est ça le premier problème. Alors après, du coup, on se retrouve séparés à 4 ou 5 listes de gauche. Bon. Du coup, on va regarder les petites différences. Sachant qu'à la fin, on vote quand même beaucoup pareil au Parlement européen. On va évidemment exacerber les discours un peu haineux sur Glucksmann, qui, je pense, sont excessifs. Même si, évidemment, hein, moi, je suis de Louviers, je suis pas de Paris, on n'est pas la même vie, on n'a pas la même manière de parler.
Ça, on le saura,
ça,
hein,
c'est
que
sûr.
Vous êtes Louviers.
Mais je veux dire, au-delà de ça, je trouve qu'on l'accuse très injustement de beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite, donc voilà, on va de ça. Après, on va aller taper sur les communistes, on va taper sur les insoumis. Ça. Donc, ça va être un jeu de massacre. Donc, est-ce qu'il faut enjamber cette période? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trop commenté cette campagne européenne parce que moi, elle me désespère d'avance.
Donc,
C'est perdu d'avance.
Les Européennes, elles sont...
Non, on fera autant. Il y aura un total gauche 30%. Voilà, on n'y peut pas grand-chose.
Oui, mais acter le fait que l'extrême droite aura 30%, c'est un aveu de défaite, pour le coup.
C'est la division de la gauche, quoi, qui est la défaite déjà. Ouais.
Mais vous nous parlez aussi des classes populaires, des gilets jaunes. Donc, quid en 2027? Est-ce que vous préparez le terrain pour Ruffin?
Ah tiens, c'est intéressant ça.
Oui. Non, enfin, je pense qu'il faut qu'on ait un candidat qui parle à cette France-là. Oui. Ruffin en fait partie de ces candidats-là. Et il y en a d'autres, bien sûr. Qui peuvent avoir envie d'y aller. Il faut qu'on ait une candidature unique et il faut qu'on travaille là-dessus, voilà, de manière vraiment prioritaire. Les élections européennes, évidemment, on parle que de ça depuis 2 ans parce qu'on n'a pas d'autres élections depuis. Donc ça passionne pas les gens en vérité. Hein. Les journalistes me disent qu'ils n'arrivent pas à vendre de papier sur les élections européennes. Les gens s'en foutent complètement.
Je te coupe parce que sur Brexit, on a fait une émission dédiée entièrement au Parlement européen.
Dédiée au Parlement européen.
Il y a 2 semaines. Et franchement,
ça a marché.
En vrai, on a eu de très bons retours.
C'était bien.
Bon, tant mieux. En tout cas, voilà, ce qui se passe, c'est que il faut quand même se souvenir des élections européennes précédentes. On ne peut rien tirer comme jugement politique définitif sur les élections européennes. 99. Les chasseurs, ils font, je ne sais combien, 6-7%. Enfin, ils font des députés européens. Les chasseurs, Villiers et Pasqua, ils sont devant Sarkozy.
Oh, Villiers.
Bon, c'est quand même.
C'est des élections un peu laboratoires où il y a des trucs qui.
2009, les écolos sont à égalité avec le PS. Bon, trois ans plus tard, le PS gagne la présidence de la République et Eva Jolie a fait 2%. 2019, Manon Aubry doit faire 6%. Glucksmann fait 6%. Les Verts sont en tête, Jadot, puis finalement. Jadot, il fait 4% à la présidentielle et Mélenchon, il fait 23%. Vous voyez bien que ces élections-là, c'est des élections un peu bizarres. Donc, en tirer des enseignements pour la suite, et même entre nous en disant « je vais être le leader de la refondation de la gauche parce que j'ai fait 10,2 et qu'il a fait 8,9 », enfin, je veux dire, ça, c'est ridicule. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop désespérer de ces élections qui s'annoncent désespérantes. Il ne faut pas trop désespérer parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça pour la reconstruction de la gauche pour la suite.
Et est-ce que vous seriez prêt à quitter le PS pour François Ruffin en 2027 ou pas?
Non, mais François Ruffin dit qu'il est socialiste, donc je pense plutôt qu'il devrait adhérer au Parti socialiste.
Ah, c'est dans ce sens-là que ça se passe pour que Philippe Brun puisse être le premier ministre de François Ruffin.
Dis pas qu'il est socialiste, il dit je suis vraiment socialiste.
Social-démocrate.
Parce que moi je me suis fait taper dessus par l'équipe de François Ruffin parce que j'ai dit ici qu'il était social-démocrate et non, il a dit je suis social et démocrate. Ils m'ont défoncé pour ça.
Et il le disait en se comparant au PS. Il disait moi je suis vraiment social et vraiment démocrate.
Vraiment démocrate.
Donc, petit fion pour le PS en plus. Mais par contre, j'ai vu que ça marchait super bien, parce que tout le monde a entendu social-démocrate et qu'en ce moment, il fait même la tournée des chefs d'entreprise, etc. Alain Minc a dit que sa candidature était très intéressante.
L'Obs avait fait la une avec cette phrase.
Mais c'était social-démocrate, donc la une de l'Obs, on est d'accord.
Sauf qu'il ne sait pas ce qu'il a dit apparemment. Voilà.
Est-ce que vous avez une dernière question? Parce qu'on arrive vers la fin de notre entretien, donc c'est une dernière remarque.
Oui, c'est très bien, toutes les élections européennes, etc., la vie interne du PS, la reconstruction du PS, mais très très concrètement, là, les attaques contre les droits des travailleurs, contre les salaires, le chômage, etc. Enfin, je vais pas faire toute la liste de ce que se mangent les Français dans la gueule et vont continuer de se manger dans les années à venir. C'est quoi la perspective là? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on a des axes de lutte en dehors d'attendre les prochaines élections?
Oui, alors d'abord l'Assemblée nationale. Alors, on a obtenu un nombre de victoires importantes depuis 2 ans. On n'a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai fait adopter un chèque pour les gens qui se chauffent au bois l'hiver. On avait battu dans l'hémicycle du gouvernement, il a été gardé. Fait adopter des aides pour les familles monoparentales, on en parlait. Ça, c'est Ingrid Levavasseur, celle qui m'a tout appris sur les familles monoparentales. J'étais hyper content de voir les gens.
Elle est de Louviers aussi.
Elle est de Louviers.
Ah, mais bon, c'est vrai.
Ensuite,
j'étais au collège.
Ouais. Et ensuite, il y a la loi sur EDF. Bon, voilà. Donc, on a, sur le plan législatif, plein de choses à gagner en trouvant des alliances un peu baroques avec les uns les autres pour apporter des victoires tout de suite, ramener des victoires à la maison.
Ensuite, faire signer des lois Emmanuel Macron auxquelles il
s'opposait. Voilà, donc ça, ramener des victoires à la maison, au Parlement, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, bien sûr, c'est s'engager au quotidien, évidemment, pour défendre les gens. Là, on a créé avec des agriculteurs, justement, de l'heure et puis un peu de partout maintenant, il y en a 800 qui ont signé, un mouvement qui s'appelle Justice pour nos agriculteurs. On attaque l'État en justice pour interdire l'importation des produits agricoles qu'on fait l'objet de traitements de pesticides qui sont interdits en France. L'idée est qu'on ne peut pas importer ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous. Il y a une loi qui interdit ça, c'est la loi Egalim, l'article 44 de la loi Egalim. Elle n'est pas appliquée par le gouvernement. Là, on saisit le Conseil d'État, on les attaque en justice. C'est comme l'affaire du siècle, mais avec les agriculteurs. Et on a lancé ça là. En quelques jours, on a plus de 800 personnes qui ont signé avec nous, des agriculteurs et des consommateurs, pour aller en justice avec nous. Donc, il y a la bataille aussi judiciaire, politique, sociale à mener de tous les instants, en allant systématiquement chercher les gens qui s'éloignent de nous tout le temps. Les agriculteurs, le monde rural de manière générale, aller chercher les artisans commerçants, c'est ce qu'on a fait avec la loi sur EDF. Parce que moi, j'ai vu des manifestations de boulangers avec la CGT. C'était extraordinaire. Vous avez les boulangers d'un côté, et la CGT d'EDF avec les ballons EDF-GDF 100% public. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut défendre aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça finalement la gauche? C'est défendre tous les petits, tous les opprimés, tous les gens qui ont rien à la fin du mois, quel que soit leur statut. Et tous ces gens-là, ça faisait très longtemps qu'ils se retrouvaient pas, qu'ils allaient pas manifester pour nationaliser des boîtes, hein, les boulangers, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, les pressings. Là, ils sont avec nous. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on défende. Comme on gagne pas la bataille politique, parce qu'on n'a pas d'élection pour gagner la bataille politique nationale pour l'instant, il faut gagner la bataille culturelle. Le combat qui est le mien, celui de tous ceux qui partagent ce qu'on raconte, c'est un combat culturel pour pouvoir l'emporter en 2027.
Eh ben, c'est le mot de la fin.
C'est le mot de la fin.
C'est... merci beaucoup, Philippe Brun, député PS de l'Eure. Et alors maintenant, on le sait, de Louviers. Hein, je pense que c'est quand même un point très, très important d'être venu sur notre Twitch, chaîne Twitch à nous, celle de Jean Massier, d'avoir fait une petite incartade à Boris et Philippe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et très bonne soirée.
Et à très bientôt, Louviers.
Et à bientôt, Louviers.
Il faut partir. Là,
on vous laisse.
Ah bah
vous vouliez ajouter quelque chose, mais il faut partir maintenant. Parce que c'est le moment du débrief.
Let's go.
On débrief cette émission.
Bah on a mis la lumière sur Louviers.
Qu'est-ce qu'on en a pensé? Voilà, ça c'est sûr. Maintenant on sait que The Place to Be c'est Louviers. Je suis tellement deg de venir de Louviers, moi.
Ouais,
c'est vraiment.
On est un peu has-been du coup.
Ah
hein.
Ouais, j'arrête.
C'est nous les cool kids.
Je veux une petite visite de Louviers. Ça m'intéresse.
Ouais. Bon, ça va vite, hein. C'est 10 000 habitants. Hein, donc,
ça peut pas être un palier, ça. Genre, on atteint 100 000 balles de dons, tu fais faire une visite guidée de Louviers.
Super idée, ça. C'est trop bien, non?
Le député Brun nous dit 20 000 habitants.
Ah, 20 000, 20 000. Oh là là. 20 000.
Bon. Bah, peut-être que ça a augmenté beaucoup depuis ton
ça
départ.
Hors de proportion.
Pas, hein.
Attention, ça grossit. ils ont écouté le fait des gosses d'Emmanuel Macron. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oh non, cette émission, déjà, je voulais m'excuser parce que, encore une fois, je suis arrivé en retard. Je sais que c'est pas bien. Dans le chat, il y a des gens qui étaient contents, d'autres pas contents. Donc voilà.
C'est pas ta faute, on a
dit. De la faute de Valérie Pécresse et de Patrice Vergerit, le ministre des Transports. Voilà, je le répète. Et non, émission cool. Ça faisait du bien de se retrouver après deux semaines.
Cool. Ouais, c'était trop cool. T'as géré, Adèle.
Merci ouais. Nous. Et vos actus alors? Qu'est-ce que vous allez, où est-ce qu'on vous retrouve?
Sacha, il n'y a pas des beaux papiers que tu fais là?
Moi, on se retrouve demain matin à 6h40 pour le Flashport sur France Info. 6h50, 7h40 et 9h50, je crois. Donc, pas de peau pour moi ce soir, je rentre dormir. Et puis, des petits papiers en préparation, là, du coup, si vous avez envie de lire le papier sur les sportifs ultramarins, n'hésitez surtout pas. C'est intéressant.
Jules.
Rhinocéros ce dimanche-ci avec Loumi, toujours sur Blast, où on revient sur la décision du Conseil d'État qui enjoint l'ARCOM à faire respecter un petit peu de pluralisme dans tous les médias, pas seulement sur CNews, mais c'est évidemment sur CNews qui sont tous devenus fous. Donc je vous encourage à regarder ça, il y a des blagues, il y a des imitations, c'est très sympa.
Mais on ne te retrouve pas à Louviers en revanche.
Non, 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 mais bisous à ma mère qui est à Louviers.
Bisous maman Dudul.
Et moi, on me retrouve sur YouTube et toutes les plateformes de podcast avec autour de moi la première discussion où je demande à mes invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui les entourent avec des invités de Malik Bentala, François Hollande. Un grand écart incroyable que je suis le seul à pouvoir réaliser. Pas très souple dans la vie, mais en tout cas dans mes interviews, apparemment, ouais, pas mal.
Et toi, Adèle, on te retrouve où?
Moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux parce que je fais des blagues, donc vous pouvez venir me voir.
C'est quoi ton Instagram, Adèle?
C'est Adèle Barbers, Adèle comme la chanteuse, Barber comme Barbershop et S à la fin parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Et donc, Adèle Barbers, et je fais des blagues ce week-end. Je joue... samedi soir, je fais des blagues d'actualité dans un comedy club qui s'appelle un plateau qui s'appelle la Gazette Comédie et je refais des blagues aussi dimanche. Suivez-moi sur les réseaux, vous aurez toutes les infos. Et on retrouve Backseat. On retrouve Backseat dans deux semaines. Pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Mais aussi, on retrouve Backseat le 26 mars. Le 26 mars, c'est le film Backseat. 1h30 de bonheur et ensuite des pots avec nous au MK2 Bibliothèque à Paris à partir de 20h. Et si vous faites partie du club, il y aura d'autres places qui vont être remises, d'autres places gratuites qui vont être mises sur le marché. Mais n'hésitez pas, adhérez, abonnez, continuez à nous soutenir.
Et nous, on vient le 26 mars, nous.
Mais bien sûr, on a un pot tous ensemble.
Moi, je l'ai noté dans mon agenda.
Ah bah oui.
J'ai dû... Note. Je crois que c'est un mardi ou un mercredi.
Je sais pas si je peux, moi.
Ah bah écoute. On espère que le ministre des Transports t'aidera.
J'espère que tu seras là, Usul, parce que moi, je devais pas être à Paris et j'ai fait en sorte de. Donc, il faut que tu sois.
On va s'organiser pour que Usul soit là. Oui. Et sinon, on organisera un trajet depuis Louviers. Enfin, on trouvera quelque chose. Merci à vous. C'était super. Merci le chat. Merci les viewers. Merci tout le monde. Et à dans deux semaines.
Merci.
Merci, Adèle.